Chapitre 5. Donc, pour quelques heures au moins, à Venise, le rythme de l'art et la pulsation de la vie ont retrouvé un même battement, dit Daniel et Gloro, en élevant sur la table son calice auquel manquait la patène sacrée. Qu'il me soit permis d'exprimer pour moi, et aussi pour nombre d'absents, la reconnaissance et la ferveur qui confondent en une seule image de beauté les trois personnes à qui nous devons ce miracle, la maîtresse du logis, la fille de Lorenzo Alvale et le poète de Perséphone. Pourquoi la maîtresse du logis, Gloro ? Demanda la Foscarina en souriant avec une grâce étonnée. Moi aussi, j'ai comme vous, non pas donné, mais reçu la joie. Donatella et le donateur, les voilà ce qu'il faut couronner. C'est à eux deux que revient toute la gloire. Mais, tantôt, dans la salle du grand conseil, répondit le docteur mystique, votre silencieuse présence auprès de la sphère céleste n'était pas moins éloquente que la parole de Stellio, ni moins musicale que le chant d'Ariane. Une fois encore, vous avez divinement sculpté dans le silence votre propre statue, non moins vivante en notre souvenir que la parole et que le chant. Stellio, avec un frisson secret, revit le monstre éphémère et versatile au flanc duquel émergeait la muse tragique, la tête dressée dans l'orbe des constellations. C'est vrai, c'est vrai ! S'écria Francesco d'Elizo. Moi aussi, j'ai eu ces pensées. Quand on vous regardait, on reconnaissait que vous étiez l'âme de ce monde idéal que chacun de nous se formait, selon ses aspirations particulières, en écoutant la parole, le chant et la symphonie. Chacun de nous, dit Fabio Molsa, sentait que dans votre figure, qui dominait la foule en face du poète, il y avait une signification insolite et grande. On aurait cru que vous assistiez seul à la naissance mystérieuse d'une idée nouvelle, dit Antonino della Villa. Toutes les choses d'alentour semblaient s'animer pour la produire, cette idée qui nous sera bientôt révélée, en récompense de la foi profonde avec laquelle nous l'avons attendue. L'animateur sentit au-dedans de lui-même tressaillir l'œuvre qu'il nourrissait, informe encore mais déjà viable. Et par un mouvement brusque, toute son âme s'inclina, comme investie d'un souffle lyrique, vers la puissance fécondante et révélatrice qui émanait de la femme dionysiaque à laquelle s'adressait la louange de ses fervents esprits. Tout d'un coup, elle était devenue très belle. Créature nocturne façonnée par les passions et les rêves sur une enclume d'or. Simulacre vivant des immortels destins et des énigmes éternelles. Bien qu'elle fût immobile, bien qu'elle se tût, ses accents fameux, ses gestes mémorables semblaient vivre autour d'elle et vibrer indéfiniment, comme les mélodies autour des cordes qui ont coutume de les répéter, comme les rimes autour du livre ferme auxquelles ont coutume de recourir l'amour et la douleur pour y trouver l'ivresse et la consolation. L'héroïque fidélité d'Antigone, la fureur fatidique de Cassandre, la fièvre dévorante de Phèdre, la cruauté de Médée, le sacrifice d'Iphigénie, Myrrha devant son père, Polyxène et Alceste devant la mort, Cléopâtre diverse comme le vent et le feu par le monde, Lady Macbeth, la voyante homicide aux petites mains, et ses grands lys emperlés de rosée et de larmes, Imogène, Juliette, Miranda et Rosalind et Jessica et Perdita, les plus tendres âmes et les plus terribles et les plus magnifiques, résidaient en elle, habitaient son corps, luisaient dans ses prunelles, respiraient par sa bouche qui savait le miel et le poison, la coupe guémée et la tasse d'écorce. Ainsi paraissait s'amplifier dans un espace sans limite et se perpétuer dans un temps sans fin le contour de la substance et de la vie humaine. Et pourtant, ce n'était que le mouvement d'un muscle, un signe, un trait, un battement des paupières, un léger changement de couleur, une inclination presque imperceptible de la tête, un jeu fugitif d'ombres et de lumières, une foudroyante vertu expressive irradiée dans la chair étroite et frêle qui engendrait continuellement ces mondes infinis d'impérissable beauté. Les génies mêmes des lieux consacrés par la poésie frémissaient autour d'elle et l'entouraient de visions changeantes. La poudreuse plaine de Thèbes, l'argolide assoiffée, les myrtes brûlées de Trézène, les saints oliviers de Colonne, le Cydnus triomphal et la pâle campagne d'Uncimane et la caverne de Prospero et la forêt des Ardennes, les pays arrosés de sang, travaillés par la douleur, transfigurés par un rêve ou éclairés par un sourire inextinguible, apparaissaient, fuyaient, s'évanouissaient derrière sa tête. Et d'autres pays reculés, les régions des brumes, les landes septentrionales, et par-delà les océans, les continents immenses où elle avait passé comme une force inouïe au milieu des multitudes étonnées, porteuse de la parole et de la flamme, s'évanouissait derrière sa tête. Et aussi les multitudes avec les montagnes, avec les fleuves, avec les golfes, avec les cités impures, les races vieilles et engourdies, les peuples forts aspirant à l'empire de la terre, les nations neuves qui arrachent à la nature ses énergies les plus secrètes pour les asservir au travail tout-puissant dans les édifices de fer et de cristal, les colonies abâtardies qui fermentent et se corrompent sur un sol vierge, toutes les foules barbares vers qui elle était venue comme la messagère du génie latin, toutes les masses ignares à qui elle avait parlé la langue sublime de Dante, tous les troupeaux humains d'où étaient montés vers elle sur un flot d'anxiétés et d'espérances confuses, l'aspiration à la beauté. Elle était là, créature de chair caduque, assujettie aux tristes lois du temps, et un amas énorme de réalité et de poésie pesait sur elle, s'élargissait autour d'elle, palpitait selon le rythme de son haleine. Ce n'était pas dans la fiction seulement qu'elle avait jeté ses cris, étouffé ses sanglots. C'était aussi dans la vie journalière. Elle avait violemment aimé, lutté, pâti dans son âme et dans son sang. Quels amours, quels combats, quels affres, de quels abîmes de mélancolie avait-elle rapporté les exaltations de sa force tragique? À quelle source d'amertume avait-elle abreuvé son libre génie? Certes, elle avait été témoin des plus cruelles misères, des plus sombres ruines. Elle avait connu les efforts héroïques, la pitié, l'horreur, le seuil de la mort. Toutes ses soifs brûlaient dans le délire de Phèdre, et dans la soumission d'Imogène tremblaient toutes ses tendresses. Ainsi la vie et l'art, le passé irrévocable et l'éternel présent, la faisaient profonde, multanime et mystérieuse, magnifiaient par-delà les formes humaines, ses destins ambigus la rendaient pareille aux temples et aux forêts. Et elle était là, respirante, sous les yeux des poètes, qui la voyaient une et diverse. Ah, oh, je te posséderai comme dans une vaste orgie, je t'agiterai comme un faisceau de Tirse. Dans ta chair experte, je secourrai toutes les choses divines et monstrueuses dont tu es lourde, et les choses accomplies et celles qui, encore en travail, croissent au fond de ton être comme une moisson sacrée. Chantait le démon lyrique de l'animateur qui reconnaissait dans le mystère de cette femme la puissance survivante du mythe primitif, l'initiation renouvelée du dieu qui avait fondu en un seul ferment toutes les énergies de la nature et par la variété des rythmes élevé les sens et les esprits humains dans son culte enthousiaste jusqu'au sommet de la joie et de la douleur. J'ai bien fait d'attendre. Le changement des années, le tumulte des rêves, la palpitation de la lutte, la rapidité des triomphes, l'impureté des amours, les enchantements des poètes, les acclamations des peuples, les merveilles de la terre, la patience et la furie, les pas dans la fange, les essors aveugles, tout le mal, tout le bien, ce que je sais, ce que j'ignore, ce que tu sais, ce que tu ignores, tout a préparé la plénitude de ma nuit. Il se sentait suffoquer et pâlir. Le désir sauvage avait pris à la gorge pour ne le plus lâcher. Et son cœur se gonflait de la même angoisse qu'ils avaient éprouvée tous les deux au crépuscule en naviguant sur cette eau qui semblait couler pour eux dans une clepsydre effroyable. Ainsi, tandis que se dissipait tout à coup la vision démesurée des lieux et des événements, cette créature nocturne lui sembla encore plus profondément se confondre avec la cité aux mille ceintures vertes et aux immenses colliers. Dans la ville et dans la femme, il voyait maintenant ce qu'il n'avait jamais vu. L'une et l'autre brûlaient en cette nuit d'automne. La même fièvre courait par les canaux et par les veines. Les astres scintillaient, les arbres ondulaient, un jardin s'approfondissait derrière la tête de Perdita. Par les balcons ouverts, les souffles du ciel entraient dans la salle, agitaient les flammes des candélabres et les calices des fleurs, traversaient les portes, faisaient palpiter les tapisseries, animaient toute la vieille maison des Capello où la tragédienne que les peuples avaient couverte de gloire et d'or, amassaient les reliques de la magnificence républicaine. Les fanaux des galions, les boucliers de la turque, les carquois de cuir, les casques de bronze, les carapaçons de velours, ornaient les appartements habités par la dernière descendante de ce merveilleux César d'Arbès, qui seul avait soutenu la Commedia dell'arte contre la réforme goldonienne, échanger en une convulsion de rire l'agonie de la sérénissime République. Oh, tout ce que je souhaite, c'est d'être l'humble servante de cette idée, dit la Foscarina Antimo d'Elia Barlia, d'une voix qui tremblait un peu, car ses yeux avaient rencontré le regard de Stellio. Mais vous seul pouvez la faire triompher, dit Francesco di Liso. L'âme de la foule vous est soumise à jamais. Le drame ne doit être qu'un rite ou un message, déclara sentencieusement Daniele Goro. Il faut que la représentation soit de nouveau rendue solennelle comme une cérémonie religieuse, puisqu'elle enferme les deux éléments constitutifs de tout culte, la personne vivante en qui, sur la scène comme devant l'autel, s'incarne le verbe d'un révélateur et la présence de la multitude muette, comme dans les temples. Bayreuth ! Interrompit le prince Odysse. Non, non, le Janicule ! S'écria Stellio, sortant tout à coup de son vertigineux silence. Une colline romaine ! Ce qu'il faut, ce n'est pas le bois et la brique de la haute Franconie. C'est un théâtre de marbre sur la colline romaine. Nous l'aurons. La subite protestation du maître semblait venir d'un allègre dédain. Vous n'admirez pas l'œuvre de Wagner ? Lui demanda Donatello Arvale avec un léger froncement de sourcil qui pendant une seconde rendit presque dur son hermétique visage. Il la regarda au fond des prunelles. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'obscurément hostile dans les manières de la Vierge, et il éprouvait lui-même contre elle une sourde intimité. À ce moment encore, il la vit isolée, vivant d'une vie propre et circonscrite, fixée dans une pensée très secrète, étrangère et inviolable. L'œuvre de Wagner, répondit-il, est fondée sur l'esprit germanique. Elle est d'essence purement septentrionale. Sa réforme n'est pas sans analogie avec celle tentée par Luther. Son drame n'est que la fleur suprême du génie d'une race, l'abrégé extraordinairement puissant des aspirations qui travaillèrent l'âme des symphonistes et des poètes nationaux, depuis Bach jusqu'à Beethoven, depuis Wieland jusqu'à Goethe. Si vous imaginiez son œuvre sur le rivage méditerranéen, parmi nos clairs oliviers, parmi nos lauriers sveltes, sous l'éclat glorieux du ciel latin, vous la verriez pâlir et se dissoudre. Puisque, selon sa parole même, il est donné à l'artiste de voir resplendir dans sa perfection future un monde encore informe et d'en jouir prophétiquement par le désir et l'espérance, je vous annonce l'avènement d'un art nouveau ou renouvelé, qui par la simplicité forte et sincère de ses lignes, par sa grâce vigoureuse, par l'ardeur de ses aspirations, par la puissance pure de ses harmonies, continuera et couronnera l'immense édifice idéal de notre race élue. Je me glorifie d'être latin. Et veuillez me pardonner, exquise Lady Myrta, et vous, mon délicat Odlitz, en tout homme de sang différent, je ne reconnais qu'un barbare. Mais Wagner aussi, dit Baldassare Stampa, qui, revenant de Bayreuth, avait encore l'âme toute remplie d'extase. Wagner aussi, quand il déroule le fil de ses théories, par des Grecs. Un fil inégal et embrouillé, répliqua le poète, rien n'est plus loin de l'Orestie que la tétralogie de l'anneau. Les Florentins de la Casa Bardi ont pénétré bien plus profondément l'essence de la tragédie grecque. Honneur à la Camerata du comte de Vergnio. J'avais toujours cru que la Camerata était une oiseuse réunion d'érudits et de rhéteurs, dit Baldassare Stampa. « Tu entends, Daniel ?» s'écria Stelio, s'adressant au docteur mystique. « Y a-t-il eu jamais au monde foyer d'intelligence plus ardent ? Il cherchait dans l'Antiquité grecque l'esprit de vie. Il lâchait de développer harmonieusement toutes les énergies humaines manifestées par tous les moyens de l'art l'homme intégral. Giulio Caccini enseignait que ce qui contribue à l'excellence du musicien, c'est non pas seulement les choses particulières, mais tout l'ensemble des choses. La fauve chevelure de Jacopo Peri, du Zazzerino, flamboyait dans son chant comme celle d'Apollon. Et ce discours, qui sert de préface à la Représentazione di Anima e di Corpo, Emilio del Cavaliere l'expose sur l'organisation du théâtre nouveau, les mêmes idées qui depuis se sont réalisés à Bayreuth, y compris les règles du parfait silence, de l'orchestre invisible et de l'ombre favorable. Marco da Gagliano, en célébrant le Spettacolo di Sfesta, fait l'éloge de tous les arts qui lui prennent concours, de telle sorte qu'avec l'intellect soient flattés en même temps tous les plus nobles sentiments par les plus délicats arts qu'ait inventé l'esprit humain. Ben, cela suffit, je pense. Le Bernin, reprit Francesco d'Elizo, fit représenter à Rome un drame pour lequel il avait lui-même construit le théâtre, peint les décors, sculpté les statues ornementales, inventé les machines, écrit les paroles, composé la musique, réglé les danses, dirigé les acteurs, dansé, chanté, déclamé. « Oh, suffit, suffit !» cria le prince Odysse en riant. « Le barbare est vaincu !» Non, 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 cela ne suffit pas encore, dit Antimo Delia Bella. Il reste à glorifier le plus grand des innovateurs, celui que la passion et la mort sacrèrent vénitien, celui qui a son tombeau dans l'église des Frari, dont peau digne d'un pèlerinage, le divin Claudio Monteverdi. Ah, voilà une âme héroïque de pure essence italienne, approuva chaleureusement Daniel Iglaolo. Il accomplit son œuvre dans la tempête, aimant, souffrant, combattant, seul avec sa foi, avec sa passion et avec son génie, dit la Foscarina lentement, comme absorbée dans la vision de cette vie douloureuse et courageuse qui avait alimenté de son sang le plus chaud les créations de son art. Parlez-nous de lui, Efrena. Stello vibra comme si elle l'eût touché à l'improviste. Une fois encore, la vertu expressive de cette bouche divulgatrice évoqua d'une infinie profondeur une figure idéale qui surgit comme d'un sépulcre devant les yeux des poètes, avec la couleur et le souffle de la réalité. L'ancien joueur de viol, veuf ardent et triste comme l'Orphée de son œuvre, apparut dans le cénacle. Ce fut une apparition de feu, plus fière et plus éblouissante que celle qui avait embrasé le bassin de Saint-Marc. Une flamboyante force de vie, projetée des entrailles de la nature vers l'anxiété des multitudes. Un véhément rayon de lumière jaillit d'un ciel intérieur pour éclairer les fonds les plus secrets de la volonté et du désir humain. Un chant inouï émergeait du silence originaire pour signifier ce qu'il y a d'éternel et d'éternellement indicible dans le cœur du monde. Qui oserait parler de lui s'il consentait lui-même à nous parler? Dit l'animateur avec trouble, impuissant à contenir la plénitude qui flottait en lui comme une mer d'angoisse. Et il regarda la cantatrice, et il la vit telle que, durant les pauses, elle lui était apparue parmi la forêt des instruments, blanche et inanimée comme une statue. Mais l'esprit de beauté qu'on avait évoqué tout à l'heure devant ce devait se manifester en elle. Ariane, dit tout bas Stello, comme pour la réveiller. Elle se leva, sans rien dire, gagna la porte, entra dans la pièce voisine. On entendit le bruit léger de sa robe et de son pas. Ensuite, le craquement du clavecin qui s'ouvrait. Tous étaient muets et attentifs. Un silence musical occupait la place restée vide dans le cénacle. Une seule fois, le souffle du vent inclina les flammes des bougies, agita les fleurs. Puis tout s'immobilisa dans une attente anxieuse. « Lasciatemi morire !» Soudain, les âmes furent ravies par un pouvoir semblable à cet aigle qui en songe ravidante jusqu'à la région du feu. Elles brûlaient toutes ensemble dans l'éternelle vérité, entendaient la mélodie du monde passer à travers leur extase lumineuse. « Lasciatemi morire !» Était-ce Ariane qui pleurait encore une nouvelle douleur? Ariane qui montait encore dans le martyr. Et que volete, que mi conforte in così dura sorte, in così gran martire, lasciatemi morire. La voix se tut. La cantatrice ne reparut point. L'air de Claudio Monteverde se composa dans le souvenir des auditeurs comme une ligne immuable. Y a-t-il un marbre grec qui ait atteint une perfection de style plus ingénue et plus sûre? Dit Daniele Gloro à voix basse, comme s'il craignait de troubler le silence musical. Quelle douleur sur la terre a jamais pleuré ainsi? Balbutia Lady Myrta, les yeux pleins de larmes qui coulaient entre les rides de son pauvre visage exsangue et qu'elle essuyait de ses mains tremblantes déformées par la goutte. L'instinct austère de Facette et de cette double âme sensitive enfermée dans cette vieille chair infirme rendaient témoignage à la même puissance. De pareille façon, presque 3 siècles auparavant, à Mantoue, dans le fameux théâtre, 6 000 spectateurs n'avaient pu réprimer leurs sanglots, et les poètes avaient cru à la vivante présence d'Apollon sur la nouvelle scène. Voilà, Baldassare, Fistelio, voilà un artiste de notre race qui, par les moyens les plus simples, réussit à s'élever jusqu'au plus haut degré de cette beauté dont le germe ne s'approcha que rarement, dans sa confuse aspiration vers la patrie de Sophocle. Connais-tu la lamentation du roi malade ? Demanda le jeune homme à la chevelure ensoleillée qu'il semblait avoir hérité de la Sapho vénitienne, de l'Alfa Gaspara, de l'infortuné ami de Collatino. Toute la détresse d'Amphorgas est déjà contenue dans un motet que je connais bien, Peccantem me quotidie, mais avec quel essor lyrique, avec quelle simplicité puissante! Toutes les forces de la tragédie s'y trouvent pour ainsi dire sublimées, comme les instincts d'une multitude dans une âme héroïque. Le langage de Palestrina, beaucoup plus ancien, me paraît encore plus pur et plus viril. Mais le contraste de Kundry et de Parsifal au second acte, le motif d'Herzéléide, la figure impétueuse, la figure de la douleur tirée du mot de l'agape sacrée, le motif de l'aspiration de Kundry, le thème prophétique de la promesse, le baiser sur la bouche de folle, tout ce déchirant et enivrant contraste de désir et d'horreur. Cela plaît, la plaie, voici que le bœuf brûle, voici qu'elle saigne en moi. Et sur la frénésie désespérée de la tentatrice, la mélodie de la soumission, laisse-moi pleurer sur ta poitrine, que pour une heure je m'unisse à toi, et même si Dieu me repousse, en toi je serai racheté, sauvé. Et la réponse de Parsifal, où revient avec une solennité si haute le motif du fol, transfiguré maintenant et devenu le héros promis. L'enfer pour nous éternellement, si ne fût-ce qu'une heure, je te laisse me serrer entre mes bras. Et la sauvage extase de Kundry, puisque mon baiser t'a rendu voyant, l'entier embrasement de mon amour te fera divin. Une heure, une seule heure avec toi, je serai sauvé. Et les suprêmes efforts de sa volonté démoniaque, le dernier geste pour séduire, l'imploration et l'offre furibonde, seul ton amour me sauve, laisse-moi t'aimer, mien seulement pour une heure, tienne seulement pour une heure. Éperdu, Perdita et Stelio se regardèrent au fond de l'âme. Dans un battement de paupières, ils s'étreignirent, s'unirent et se pâmèrent comme sur un lit de volupté et de mort. La marangona, la grosse cloche de Saint-Marc, sonnait minuit. De même que tout à l'heure au crépuscule, il leur sembla qu'ils percevaient le bourdonnement du bronze dans la racine de leurs cheveux comme un frisson de leur propre chair. Ils crurent sentir passer encore sur leur tête cet immense ouragan de son au milieu desquels ils avaient soudain vu s'élever les apparitions de la beauté consolatrice invoquée par la prière unanime. Toutes les grâces des eaux, l'infini tremblement du désir qui se cache, l'anxiété, la promesse, l'adieu, la fête, et le monstre formidable aux mille visages humains, et la grande sphère étoilée, et les clameurs, et les musiques, et le chant, et les prodiges du feu, le retour par le canal sonore, la chanson de la jeunesse brève, la lutte et l'angoisse muette dans la gondole, l'ombre subite sur les trois destins, le festin illuminé par l'idée belle, les pressentiments, les espérances, les orgueils, toutes les pulsations de la vie forte se renouvelèrent en eux, s'accélérèrent, furent mille et ne furent qu'une. Et ils crurent avoir vécu par-delà toute limite humaine, et qu'à cette minute ils avaient devant eux une immensité inconnue qu'ils pourraient aspirer comme on humerait d'un trait un océan. Car après avoir tant vécu, ils se sentaient vides. Car après avoir tant bu, ils restaient assoiffés. Une illusion violente s'était emparée de leurs âmes riches. Elles pensèrent s'accroître démesurément dans la richesse l'une de l'autre. La Vierge avait disparu. Les yeux de la femme désespérée et nomade répétaient « L'entier embrassement de mon amour te fera divin. Une heure seulement avec toi, je serai sauvé. Mien seulement pour une heure, tienne seulement pour une heure. Et la tragédie sacrée continuait à grandir dans le commentaire éloquent de l'enthousiasme Baldassare. Kundry, la tentatrice forcenée, l'esclave du désir, la rose de l'enfer, l'originelle perdition, la maudite, réapparaissait maintenant dans l'aube d'avril. Elle réapparaissait humble et pâle sous la robe de la messagère, la tête courbée, le regard éteint, et sa voix rauque et brisée n'avait plus que cette unique parole, servir, servir. La mélodie de la solitude, la mélodie de la soumission, la mélodie de la purification préparait autour de son humilité l'enchantement du vendredi saint. Et voici Persifal dans sa noire armure, le morion clos, la lampe baissée, enfermé dans le rêve et dans le fer. Je viens par des sentiers périlleux, mais ce jour me sauvera peut-être, puisque j'entends le murmure de la divine forêt. L'espérance, la douceur, le remords, le souvenir, la promesse, la foi haletant vers le salut, de mystérieuses mélodies sacrées tissaient l'idéal manteau dont allait se couvrir le simple, le pur, le héros envoyé pour guérir la plaie sans remède. Me conduiras-tu aujourd'hui vers Amfortas ? Il s'alanguissait, défaillait entre les bras du vieillard. Servir, servir. La mélodie de la soumission se déployait une fois encore dans l'orchestre, mettait en fuite l'impétueuse figure primitive. Servir. La femme fidèle apportait l'eau, s'agenouillait humble et ardente, lavait les pieds de l'aimé. Servir. Le pur s'inclinait vers la pécheresse, versait le pur élément sur la tête sauvage. Ainsi j'accomplis mon premier office, reçois le baptême et crois au Rédempteur. Kundry éclatait en sanglots et touchait du front la terre, affranchi du désir, affranchi de la malédiction. Et alors, des profondes harmonies finales de l'appel au Rédempteur se dégageaient, s'élevaient, s'épanchaient avec une surhumaine suavité la mélodie du pré en fleurs. Comme il est beau, le pré, aujourd'hui. Un jour de merveilleuses fleurs m'enlacèrent, mais l'herbe et la corolle n'eurent jamais un tel parfum. Extatique, Parsifal contemplait le pré et la forêt, tout riant de rosée dans la lumière matinale. Ah, qui pourrait oublier ce moment sublime ? S'écria l'émerveillé, dont le visage maigre semblait réfléchir l'éclair de cette joie. Tous, dans l'obscurité du théâtre, nous demeurions immobiles comme une seule masse compacte. On eût dit que, pour écouter, le sang s'était arrêté dans toutes les veines. Du golfe mystique, la symphonie montait en illusion de lumière, les notes se changeaient en rayons de soleil, s'engendraient avec l'allégresse du brin d'herbe qui perce la terre, de la corolle qui s'ouvre, de la branche qui pousse ses bourgeons, de l'insecte qui déploie ses ailes. Et toute l'innocence des choses qui naissent pénétrait en nous. Et notre âme revivait, je ne sais quel rêve de notre lointaine enfance. Infantia, la parole de Carpaccio. Ah, Stelio, cette parole, comme tu as su la répéter à notre vieillesse, comme tu as su nous inspirer le regret de ce que nous avons perdu, et l'espérance de le recouvrer au moyen de l'art indissolublement rattaché à la vie. Stelio se taisait, écrasé sous le poids de l'œuvre gigantesque accomplie par ce créateur barbare que l'enthousiaste de Baldare Stampa évoquait pour l'opposer à l'ardente figure du poète d'Orphée et d'Ariane. Une sorte de rancune instinctive, une obscure hostilité qui ne venait pas de l'intelligence, le soulevait contre ce germain tenace qui avait réussi à enflammer le monde. Pour remporter la victoire sur les hommes et sur les choses, il n'avait fait celui-là aussi qu'exalter sa propre image, magnifier son propre rêve de beauté dominatrice. Celui-là aussi était allé vers la foule comme vers la proie préférable. Celui-là aussi s'était imposé comme disciple d'effort pour se surpasser soi-même sans trêve. Et maintenant, il avait le temple de son culte sur la colline bavaroise. L'art seul peut ramener les hommes à l'unité, dit Daniele Glauro. Honorons le noble maître qui a proclamé ce dogme pour toujours. Son théâtre de fête, bien que bâti en bois et en briques, étroit et imparfait, n'en a pas moins une sublime signification. Là, l'œuvre d'art n'apparaît que comme la religion devenue sensible sous une forme vivante. Le drame est un rite. Honorons Wagner, dit Antonino de Liabella. Mais si cette nuit doit rester mémorable par une annonce et par une promesse attendue de celui qui ce soir montrait le mystérieux navire à la foule, invoquons de nouveau l'âme héroïque qui nous a parlé par la voix de Donatello al Valle. En posant la première pierre de son théâtre de fête, le poète de Siegfried la consacra aux espérances et aux victoires germaniques. Le théâtre d'Apollon, qui s'élève rapidement sur ce janicule où jadis les aigles descendaient pour apporter les présages, doit être seulement la révélation monumentale de l'idée vers laquelle notre race est conduite par son génie. Affirmons de nouveau le privilège dont la nature a ennobli notre sang. Stelio se taisait, bouleversé par des forces tourbillonnantes qui le travaillaient avec une sorte de fureur aveugle, semblables aux énergies souterraines qui soulèvent, déchirent, transfigurent les régions volcaniques pour la création de nouvelles montagnes et de nouveaux abîmes. Tous les éléments de sa vie intérieure, assaillis par cette violence, paraissaient en même temps de dissoudre et se multiplier. Des images grandioses et terribles passaient sur ce tumulte, accompagnées de mélodies. Des concentrations, des dispersions très rapides de pensées se succédaient comme les décharges électriques pendant la tempête. À certains moments, c'était comme s'il avait entendu des clameurs et des chants par une porte qui se fût ouverte et refermée sans cesse, comme si des rafales lui avaient apporté les cris alternés d'un massacre et d'une lointaine apothéose. Tout à coup, avec l'intensité des visions fébriles, il vit la terre brûlée et fatale où il voulait faire vivre les âmes de sa tragédie. Il en sentit toute la soif au-dedans de lui-même. Il vit la mythique fontaine qui seule interrompait l'ardente sécheresse, et sur la palpitation des sources, la candeur de la Vierge qui devait mourir là. Il vit sur le visage de Perdita le masque de l'héroïne apaisée dans la beauté d'une douleur extraordinairement calme. Puis l'antique sécheresse de la plaine d'Argos se convertit en flamme. La fontaine Perseia coula comme un fleuve rapide. Le fleuve et l'eau, les deux éléments primitifs, passèrent sur toute chose, effacèrent tout vestige, se répandirent, vaguèrent, luttèrent, triomphèrent, acquirent un verbe, prirent un langage, pour dévoiler leur intime essence, pour raconter les innombrables mythes nés de leur éternité. La symphonie exprima le drame des deux âmes, élémentaires sur la scène de l'univers, la lutte pathétique des deux grands êtres vivants et immobiles, des deux volontés cosmiques, telles que cela figurait le pasteur Arya sur les hauts plateaux, en contemplant le spectacle des choses avec des yeux purs. Et tout à coup, du centre même du mystère musical, du gouffre de l'océan symphonique, l'ode s'éleva, portée par la voix humaine, et atteignit les plus hautes cimes. Le miracle de Beethoven se renouvelait. L'ode ailée, l'hymne s'élançait des profondeurs de l'orchestre pour dire, d'une façon impérieuse et absolue, la joie et la douleur de l'homme. Ce n'était pas le cœur comme dans la 9e symphonie, c'était la voix solitaire et dominatrice, l'interprète, la messagère de la multitude, sa voix. Elle a disparu. Son chant paraissait toucher le cœur du monde, et elle était là par-delà le voile, disait l'animateur, qui avait encore une fois dans les yeux la statue de cristal où il avait vu monter la source de la mélodie. Je te chercherai, je te retrouverai, je m'emparerai de ton secret, tu chanteras mes hymnes debout au sommet de mes musiques. Libéré de tout désir impur, il considéra les dépouilles mortelles de la Vierge comme le réceptacle d'un don divin. Il entendait la voix incorporelle surgir des profondeurs de l'orchestre pour révéler la part de vérité éternelle qui existe dans le fait éphémère, dans l'événement passager. L'ode couronnait de lumière l'épisode. Alors, comme pour amener vers le jeu des apparences l'esprit ravi par-delà le voile, une figure de danse vint se dessiner sur le rythme de l'ode mourante. Entre les côtés d'un parallélogramme inscrit dans l'arceau de la scène, comme entre les limites d'une strophe, la danseuse muette, avec les lignes de son corps affranchies pour quelques instants des tristes lois de la pesanteur, imita le feu, l'eau, le tourbillon, les révolutions des étoiles. La Tanagra, fleur de Syracuse, faite entièrement d'elle comme une fleur est faite de pétales. Ainsi évoquait-il l'image de la Sicilienne déjà célèbre qui avait retrouvé l'art orchestique tel qu'il fut au temps où Phrynichus pouvait se vanter d'avoir lui-même autant de figures de danse que soulève de vagues sur l'océan une orageuse nuit d'hiver. L'actrice, la cantatrice, la danseuse, les trois femmes dionysiaques lui apparaissaient comme les instruments parfaits de ses fictions. Avec une incroyable rapidité dans la parole, dans le chant, dans le geste, dans la symphonie, son œuvre se réalisait intégralement et vivait d'une vie toute puissante devant la multitude subjuguée. Il se taisait, perdu en ce monde idéal, attentif à mesurer l'effort nécessaire pour le manifester. Les voix de ceux qui l'entouraient lui arrivaient comme du lointain. Wagner affirme que le seul créateur de l'œuvre d'art est le peuple, disait Baldassare Stampa, et que l'unique fonction de l'artiste est de recueillir et d'exprimer la création du peuple inconscient. L'émoi extraordinaire dont il s'était lui-même étonné, lorsque du trône des doges il partait à la foule, vint le ressaisir. Dans la communion entre son âme et l'âme de la foule, un mystère était survenu presque divin. Quelque chose de plus grand et de plus fort s'était ajouté au sentiment habituel qu'il avait de sa personne. Il lui avait semblé qu'un pouvoir inconnu convergeait en lui, abolissant les limites de son être et conférant à sa voix solitaire l'harmonie d'un cœur. Il y avait donc dans la multitude une secrète beauté d'où le poète et le héros pouvaient seuls tirer des éclairs. Quand cette beauté se révélait par la soudaine clameur s'élevant au théâtre ou sur la place publique ou dans la tranchée, alors un torrent de joie gonflait le cœur de celui qui avait su la provoquer par les vers, par le harangue, par le signe de l'épée. Et la parole du poète communiquée à la foule était donc un acte, aussi bien que le geste du héros. Elle était un acte qui, de l'obscurité de l'âme innombrable, tirait une beauté instantanée, tel un sanctuaire prodigieux qui, d'une masse d'argile, pourrait par une seule touche de son pouce plastique créer une statue divine. Alors cessait le silence étendu comme un voile sacré sur le poème accompli. La matière de la vie n'était plus évoquée par des symboles immatériels, c'était la vie même qui se manifestait intégralement par le poète. Le verbe se faisait chair, le rythme s'accélérait dans une forme respirante et palpitante, l'idée s'élançait en la plénitude de sa force et de sa liberté. Mais, disait Fabio Bolza, pour Wagner, le peuple se compose de tous ceux qui éprouvent une misère commune, entendez-vous ? Une misère commune. Vers la joie, vers l'éternelle joie, pensait Stelio. Le peuple se compose de tous ceux qui éprouvent un obscur besoin de s'élever par le moyen de la fiction, hors de la prison quotidienne où ils souffrent et sont esclaves. Ils disparaissaient, les étroits théâtres urbains, où dans la chaleur suffocante et imprégnée de toutes les impuretés, devant un ramassis de ribaudets, de courtisanes, les acteurs font métier de prostitution publique. Sur les gradins du théâtre nouveau, ils voyaient la foule vraie, l'immense foule unanime dont ils venaient de sentir l'odeur et d'entendre la clameur sous les étoiles dans la conque marmoréenne. À ces âmes rudes et ignorantes, son art même incompris apportait, grâce au mystérieux pouvoir de rythme, un trouble profond, semblable à celui du prisonnier qui va être délivré de ses lourdes chaînes. Peu à peu, la félicité de la délivrance se propageait aux purs objets. Les fronts ridés s'éclairaient et les bouches, accoutumées aux vociférations brutales, s'épanouissaient dans la stupeur. Et les mains, les âpres mains asservies aux instruments du travail, se tendaient par un élan d'amour vers l'héroïne qui envoyait aux étoiles sa douleur immortelle. Dans l'existence d'un peuple comme le nôtre, disait Daniele Di Rorò, une grande manifestation d'art compte beaucoup plus qu'un traité d'alliance ou qu'une loi financière. Ce qui ne meurt pas vaut mieux que ce qui est caduque. L'astuce et l'audace d'un Malatesta sont renfermés dans une médaille du Pisanello pour l'éternité. De la politique de Machiavel, rien ne survit, sinon le nerf de sa prose. C'est vrai, pensait Stelio. La fortune de l'Italie est inséparable du sort de la beauté dont elle est mère. Telle maintenant lui apparaissait la vérité souveraine, rayonnant sur cette divine patrie idéale que Dante explora. Italie, Italie! Et sur son âme résonnait comme un cri de réveil ce nom qui enivre la terre. Des ruines baignées par tant de sang héroïque, l'art nouveau ne devait-il pas s'élever, robuste, de racines et de branches? Ne devait-il pas résumer en lui toutes les forces latentes que possède la substance héréditaire de la nation, devenir pour la troisième Rome une puissance déterminante et constructive, indiquer aux hommes d'État les vérités primordiales qui sont les bases nécessaires des institutions nouvelles. Fidèle aux plus antiques instincts de sa race, Wagner avait pressenti, et secondé par son effort, l'aspiration des États allemands vers la grandeur héroïque de l'Empire. Il avait évoqué la haute figure d'Henri Loiseleur, se levant sous le chêne séculaire. Que par toute la terre allemande surgissent les combattants. Et bientôt, ces combattants avaient vaincu. Avec le même élan, avec la même ténacité, le peuple et l'artiste avaient atteint le but glorieux. La même victoire avait couronné l'œuvre du fer et l'œuvre du rythme. Aussi, bien que leur héros, le poète avait accompli un acte libérateur, aussi bien que la volonté du chancelier, aussi bien que le sang des soldats, ces figures musicales avaient contribué à exalter et perpétuer l'âme de la race. Il est ici depuis quelques jours déjà, au palais Vendramin Kalergi, disait le prince Eoditz. Et subitement, l'image du créateur barbare se présenta. Les lignes de sa face devinrent visibles. Ses yeux d'azur brillèrent sous le vaste front. Ses lèvres se serrèrent sous le menton robuste, armé de sensualité, d'orgueil et de dédain. Son petit corps, courbé par la vieillesse et par la gloire, se redressa, parut gigantesque aussi bien que son œuvre, et prit l'aspect d'un dieu. Le sang y courut comme les torrents dans une montagne, la respiration y souffla comme le vent dans une forêt. Subitement, la jeunesse de Siegfried l'envahit, s'y épanouit, radieuse comme l'aurore dans le nuage. Suivre l'impulsion de mon cœur, obéir à mon instinct, écouter en moi-même la voix de la nature, voilà ma suprême loi. La parole héroïque résonna en lui, jaillissant des profondeurs, exprimant la volonté jeune et saine qui triomphait de tous les obstacles et de tous les maléfices, toujours d'accord avec la loi de l'univers. Et les flammes alors, celles qui naissaient de la roche heurtée par la lance de Wotan, montèrent en cercle. Dans la mer flamboyante, le chemin s'est ouvert, me plonger dans le feu, oh la grande joie, trouver l'épouse dans la flamme. Tous les fantômes du mythe fulgurèrent, s'éteignirent. Le casque ailé de Brunehilde scintilla au soleil. Gloire au soleil, gloire à la lumière, gloire au jour rayonnant. Mon sommeil fut long. Qui m'a réveillé ? Tous les fantômes s'enfuirent en tumulte, se dispersèrent. Soudain ressuscitèrent sur un champ d'ombre la Vierge du champ, Donatella Arvalle, telle qu'elle lui était apparue là-bas, parmi la pourpre et l'or de la salle immense, tenant à fleur du feu dans une attitude dominatrice. Tu ne me vois donc pas ? Mon regard qui te consume et mon sang qui bout te font donc pas peur ? Tu ne l'éprouves pas, cette ardeur sauvage ? Absente, elle reprenait son pouvoir de rêve. Des musiques infinies naissaient du silence qui occupait la place restée vide dans le cénacle. Son hermétique visage enfermait un secret inviolable. Ne me touche pas, ne me trouble pas, et je reflèterai à jamais ton image lumineuse. C'est toi-même que tu dois aimer, renonce à moi. Une fois encore, comme sur l'eau fébrile, une impatience passionnée tourmentait l'animateur. Et dans l'absente, il retrouvait l'aptitude à être bandé comme un bel arc par une main forte qui saurait s'en armer pour une haute conquête. Éveille-toi, Vierge, éveille-toi, Vierie, sois mienne. Son esprit était entraîné avec violence dans l'orbite du monde créé par le dieu germain. Les visions et les harmonies l'opprimaient. Les figures du mythe septentrional, recouvrant celles de sa passion et de son art, venaient les obscurcir. Son désir et son espérance parlaient le langage du barbare. Il faut que je l'aime en riant, que je m'aveugle en riant. Il faut qu'en riant, nous nous perdions ensemble. Amour, adieu, riante mort. L'allégresse de la Vierge guerrière sur la roche cerclée de flammes atteignait les plus hauts sommets. Le cri de volupté et de liberté montait jusqu'au cœur du soleil. Ah, quelle chose n'avait-il pas exprimé? Quel fait et quel abîme n'avait-il pas touché, ce formidable agitateur de l'âme humaine? Quel effort pourrait-on jamais égaler le sien? Quel aigle pourrait espérer un plus haut vol? Son œuvre gigantesque était là, terminée au milieu des hommes. Par toute la terre retentissait le dernier cœur du Graal, le cantique de grâce. Gloire au miracle, rédemption, rédempteur. Il est fatigué, disait le prince Holditz, très fatigué, très très affaibli. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas vu au palais des Doges. Il a le cœur malade.